gray eyes.
Des yeux verts menaçants.
Long face, dark hair.
Des cheveux longs bouclés noirs qui tombaient librement sur les épaules. Un cou de taureau.
Il a sans doute une malformation de la lèvre inférieure.
Un air en général de grande détermination et assez sombre.
Vlad Tepeš, Dracula.
Il était l'héritier, puis il a été à un moment le prince. Il n'était rien d'autre que cela. C'est quelqu'un qui s'identifiait complètement à son rôle et à son pays, à sa principauté, à la Valachie. Il est inscrit là-dedans, au plus profond de son être, constamment dans la crainte de la perdre, sans avoir véritablement de lieu de refuge.
Prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne Pérez Franchini.
Maintenant le ciel a perdu sa beauté, le soleil larmoie, la lune s'assombrit, les étoiles se lamentent, l'air s'enténèbre, la terre tremble et gémit, la mer forme ses vagues, frissonne et s'afflige du malheur, les collines, les vallons, les plaines et les fleuves compatissent, les arbres, les buissons et les prés se dessèchent et pleuvent. Tous les oiseaux lancent un chant funèbre plaintif. Le peuple des animaux terrestres mugit lamentablement pour manifester l'excès du malheur.
Entre deux mondes, le fils du diable, épisode 2.
C'est un continent inquiet, des grands ensembles bougent. La grande dynastie européenne des Luxembourg s'éteint, sans descendant masculin. Les plaques bougent, d'autant plus que survient un facteur évidemment exogène qui ouvre pour plusieurs siècles un véritable complexe de cette chrétienté latine qui est le fameux danger turc. Ces contrées, moldaves, valaques, bulgares, plus tard roumaines, sont aux premières loges et elles ont vu la défaite à quelques encablures de leur principauté.
Nous sommes dans un monde chamboulé par l'invention de l'imprimerie de Gutenberg. Et au-delà des bouleversements de la vie politique, plusieurs transformations profondes se produisent simultanément au milieu du XVe siècle. Je viens de mentionner Gutenberg, mais la révolution militaire est tout aussi importante. C'est une époque où on change la manière de mener la guerre. L'adoption des armes à feu entraîne une série de conséquences. Ce que fait la Valachie à l'époque de Vlad l'Empaleur ne sera pas possible dans les siècles suivants. Ce que je veux dire, c'est qu'au milieu du XVe siècle, un petit prince à la tête d'un petit royaume comme la Valachie peut encore, d'une manière ou d'une autre, rivaliser avec les grandes puissances. Mais cette situation ne va pas durer longtemps.
Les traditions, en grande partie légendaires, racontent que les Daces descendent des loups. On dit aussi qu'au tout début, il y avait un prince noir du nom de Radu. Venu de Transylvanie, Radu Negru serait descendu des montagnes à cheval pour prendre possession de ce pays lointain et oublié dans les décombres de la chute de Rome. Ce prince noir unifie les Daces et fonde la Valachie. Au nord et à l'ouest, les montagnes qui la séparent de la Transylvanie. À l'est, la mer. Et au sud, le fleuve du destin, le Danube. Cette terre est le théâtre où se déroule la vie de Vlad Dracula, qui descend lui aussi de Transylvanie. Et c'est ainsi que son histoire commence.
On n'a pas de certitude, puisqu'il n'y a aucune source qui nous dit explicitement qu'il est né en telle année à tel endroit, ça n'existe pas.
Benoît Joudiou.
Mais on pense qu'il est né pendant, effectivement, les années de résidence de Vlad Dracula à Sighișoara.
On ne connaît pas le nom de la mère de
Matei Kazaku.
Mais il est certain qu'elle était une noble hongroise, puisque dans la dynastie des Bassarabes, dès le début, il y avait eu au moins 5 épouses hongroises. depuis Bassarab et même son père, jusqu'à Mircea et son fils. Et ensuite, on a deux ou trois dont on ne connaît pas bien les épouses. Et puis avec Vlad Dracu, on sait qu'il a eu cette épouse hongroise, c'est certain. Et puis il a pu une deuxième moldave.
We don't know anything about
on ne sait rien à propos de la mère de Vlad Tsepeș.
Adrian Georg.
Son père s'appelait aussi Vlad, Vlad II. Notre Vlad, Vlad l'Empaleur, était Vlad III. Et Vlad II a eu trois fils légitimes, Mircea, l'aîné, Vlad III, notre homme, et Radu le Beau. Il est très probable que Vlad n'ait pas reçu une éducation de qualité en Valachie. On ne connaît pas d'exemple de ce type chez d'autres voïvodes ou d'autres souverains. Nous n'avons aucun autre exemple pour le XVe siècle.
Il faut essayer d'imaginer ce prince qui finalement vit une partie de son... Alors, on oublie l'épisode de Sigishwara parce qu'il était très très jeune, un peu, dans sa toute première enfance, lorsqu'il a suivi son père en Valachie. Mais donc, on va imaginer qu'il passe son enfance en Valachie. Tout ce que l'on peut savoir, c'est qu'il y avait probablement un précepteur. Ce précepteur pouvait être un homme expérimenté, un compagnon d'armes de son père, qui pouvait lui apprendre essentiellement ce dont un prince avait besoin, c'est-à-dire le métier des armes.
Son père était monté sur le trône de la Valachie en 1436, donc à l'âge de 5 ans, juste au moment où il passait à une phase nouvelle de son éducation, c'est-à-dire qu'il sortait du giron des femmes pour entrer dans le monde des hommes. Donc, il a dû avoir une éducation de petit prince, c'est-à-dire avec un précepteur. On sait que son frère aîné avait un précepteur, un vieux monsieur qui avait participé à la bataille de Nicopolis en 1396. Vous voyez un peu la différence de temps. Et qui racontait encore dans le récit d'un chevalier bourguignon venu en Valachie, comment cela s'était passé, la grande défaite des chrétiens dans une bataille contre les Turcs. Et donc, l'éducation princière, c'était maniement des armes, cheval, et un peu de culture, pas grand-chose. On doute qu'il connaissait beaucoup de langues étrangères, mais en tout cas, quelques notions de pouvoir qui étaient, aux yeux des princes, de Valachie et de tous les princes d'ailleurs de l'époque, censé venir directement de Dieu.
Outre cette première phase de son éducation à la cour de Valachie, il faut retenir surtout qu'adolescent, hein, à partir de 1442, il suit son père comme otage à la cour ottomane et qu'il y reste jusqu'en 1448. On peut penser donc que sa formation la plus importante s'est faite dans ces milieux ottomans. Alors là, eh bien, il s'est trouvé dans un milieu extrêmement bigarré et cosmopolite, puisque bien entendu, on y trouve des Turcs, de nombreux chrétiens d'Orient qui peuvent venir parfois d'ailleurs de régions plus éloignées, y compris du Proche-Orient, mais surtout des chrétiens des Balkans. Il y a des Albanais. Il y a et puis il y a aussi, si vous voulez. C'est ceux qui font du commerce avec les Ottomans également, c'est ce qu'on va appeler ces Levantins, si vous voulez, qui sont des gréco-italiens, qui constituent également un milieu important.
Ces jeunes qui arrivent auprès d'un suzerain, d'un maître, la plupart du temps, c'est des jeunes qui sont en pleine formation. Et qui se retrouvent à la cour avec un statut d'ailleurs au départ assez enviable, puisqu'ils sont accueillis avec des honneurs, avec des... ce qu'on pourrait appeler une représentation de la grandeur impériale, justement, qui est censée les attirer, les former aussi en même temps au paradigme impérial. C'est exactement le cas de Vlad Dracu et ensuite de Radu. Mais au moment de crise, au moment où notamment les pères des fils otages ne suivait plus la politique impériale, alors il se transformait automatiquement en prisonnier. Et donc, il subissait sur leur corps l'ire et la colère du maître qui voulait, par ce biais, en fait, discipliner les parents.
He lost
D'une certaine manière, on peut dire que Vlad a perdu son enfance. Il a d'abord vécu comme otage dans l'Empire ottoman pendant des années. Puis il est revenu en 1448 pour régner seulement 2 ou 3 semaines, peut-être 1 mois. Et il a dû fuir à nouveau et se rendre en Moldavie, puis en Transylvanie. En fait, il a passé plus de temps à l'extérieur que dans son propre pays, loin de sa langue et de sa culture. Et il a perdu très tôt son père. Il a perdu son frère. Vlad a donc développé une forme de colère à l'égard du monde extérieur qu'il a tenu responsable de leur mort. Comme si les autres étaient coupables de lui avoir enlevé ses modèles.
Si on veut comprendre Dracula, on ne peut pas ignorer la dimension de vengeance qui, pour lui, devait guider une bonne partie de ses actions, surtout dans les relations avec les étrangers. L'histoire commence avec le prince fondateur de la dynastie qui s'appelait Bassarab. Bassarab, c'était son sobriquet. En fait, il s'appelait Jean Ivanko. Mais Bassarab nous mène à un monde beaucoup plus lointain parce que c'est un mot d'origine turque ancienne qui signifiait le père dominateur, le père qui pèse sur vous. On le voit, le pays même est appelé le pays de Bassarab, la dynastie des Bassarab. Vlad Tepes descend directement de Bassarab le fondateur, à travers donc des princes qui portent des noms chrétiens, comme Radu, Dan, Mircea, Vlad.
Pour bien comprendre les enjeux de toutes ces disputes que Vlad traverse au XVe siècle, il faut bien avoir à l'esprit qu'on est dans le cadre d'une dynastie, la dynastie des Bassarab, une dynastie assez prolifique en raison de la coutume du pays qui conférait un droit de succession au trône à tous les descendants de princes, dans la mesure où ils avaient un sang princier, dans la mesure où ils avaient un os princier. La Valachie et la Moldavie sont nommées souvent dans les sources de l'époque la porte ou les portes de la chrétienté. Les forteresses principales de ces deux pays sont aussi appelées les clés de la chrétienté. Donc la cité de Kilia, de Cetate Albe, de Giurgiu sont tout autant de clés de la chrétienté. C'est-à-dire c'est par là que les Ottomans entrent. Vers la christianitas, vers le monde chrétien. Et donc, inversement, pour l'Empire ottoman, effectivement, ces pays constituaient des portes d'entrée des armées qui participaient au projet qu'on appelle des croisades tardives, des armées occidentales, plus ou moins financées et stimulées par la papauté, qui se donnaient pour objectif de libérer une partie des territoires chrétiens balkaniques occupés, ce qui n'a jamais été le cas, mais qui existe souvent dans l'intention.
La Valachie, et au début du XVe, la Valachie acquiert un statut double, vassal de la Hongrie et tributaire de l'Empire ottoman, avec la condition de permettre aux Turcs de faire des expéditions en Transylvanie contre les riches cités allemandes de Hongrie. Et donc, de là, tout le problème de funambule que ces princes devaient suivre.
Les princes tentent tant bien que mal de se maintenir au pouvoir en se gardant de leurs ennemis qui sont finalement voilà, la menace d'être renversés par une coalition nobiliaire appuyée par les Ottomans ou la menace d'être renversés par une coalition appuyée par soit directement le roi d'Hongrie, ou bien les puissantes villes allemandes avec laquelle la Valachie a très très importante relation commerciale, qui se situe juste de l'autre côté des Carpates, de l'autre côté des cols, hein, en Transylvanie. Ces princes valaques sont à la fois donc victimes de cette situation et de ce rapport de force qui leur est clairement défavorable. Ils n'ont pas les cartes en main, mais en même temps peuvent essayer parfois de tirer leur épingle du jeu en devenant un peu incontournables. C'est utile pour les Ottomans parce qu'ils peuvent les renseigner sur les intentions des chrétiens. Utile également pour les chrétiens dans le sens inverse. Bassarabe, du point de vue hongrois, il était un vassal du roi de Hongrie. Hein. Le roi de Hongrie s'adresse à lui comme étant son vassal transalpin, c'est ce que l'expression qu'on utilise dans les textes, transalpin, pour désigner à ce moment-là la Valachie, c'est-à-dire au-delà des Carpates en réalité, au-delà de la montagne. Ces vassaux ont le titre de voyevode. Alors voyevode est un terme slave, d'origine slave, qui signifie chef de guerre. Ce serait une sorte de duc, de chef de guerre. Et ces voyevodes valaques, alors, étaient au service du roi de Hongrie pour monter la garde sur les confins orientaux du royaume, face à des terres qui étaient considérées comme des terres peuplées par soit par des païens, soit par des schismatiques. Et quand les sources hongroises parlent au XIIIe siècle de schismatiques, ils parlent en réalité d'orthodoxes, c'est-à-dire de valaques. Ce personnage, Bassarabe, occupe une place importante dans les récits, dans les sources narratives hongroises, dans la mesure où il a infligé à son seigneur, hein, le roi de Hongrie, en 1330, une grave défaite.
De maudite mémoire, c'est-à-dire en l'an de grâce 1330, au mois de septembre, le roi marcha avec une grande armée vers le pays de Bassarabe, voïvode des Valaques, qui est une terre inhabitable pour ceux qui ne la connaissent pas. Parmi les hautes montagnes et les forêts de ce pays inconnu, ils ne purent trouver aucune provision, et le roi lui-même, ses guerriers et les chevaux commencèrent bientôt à souffrir de faim. Ils conclurent donc une trêve avec Bassarabe. Le roi rebroussa donc chemin sans inquiétude, confiant dans la bonne foi du schismatique perfide. Et voilà que du haut des pentes, un nombre incalculable de valaques, courant d'avant en arrière, lançaient des projectiles sur l'armée du roi, sur la route en contrebas. Sans distinction, ils tombaient, comme des nourrissons bercés dans un berceau ou des roseaux tremblant au vent. Le massacre fut immense. Le roi s'est échappé de justesse avec quelques-uns, protégés par ses hommes fidèles. Le nombre de Valaques n'est connu que par le gardien des comptes de l'enfer.
Les voyageurs racontent que l'on peut traverser le pays en passant uniquement par les forêts qui servent de lieu de refuge. C'est là que les princes se cachent des invasions. C'est à travers les bois qu'ils organisent la fuite du pays. Bassarabe, donc, fonde la dynastie. Parmi ses descendants, deux frères se succèdent, Dan Ier et Mircea l'Ancien. Dan meurt très vite, trop tôt, sans enfant en âge de gouverner. C'est donc son frère Mircea qui le remplace sur le trône, et il parachève l'extension de la principauté. Mircea l'Ancien devient le modèle politique de ses successeurs. Mais les fils de Dan grandissent à leur tour et réclament le trône. Et c'est ainsi que naît dans la lignée du père Bassarabe deux dynasties concurrentes. Les fils et petits-fils de Dan, les Danesti, et les fils et petits-fils de Mircea, les Draculeshti.
La saga familiale, c'est là en fait que ça commence. À partir de ce moment, il y a une succession et rivalité entre les quelques fils de Mircea, d'un côté, et les cousins, les Danesh, les descendants de Dan de l'autre. Donc on va avoir les deux branches cousines qui vont être dans une compétition impitoyable pour le trône de la Valachie. Parmi les fils de Mircea, celui qui s'affirme, qui s'impose, c'est Vlad Dracul, le père de Vlad Tsepej, de Vlad l'Empaleur, qui doit ce surnom qu'il a légué à ses fils à son intégration dans l'ordre du dragon, fondé en 1408 par le roi de Hongrie, Sigismond de Luxembourg, qui à cette époque est en train de devenir roi des Romains, c'est-à-dire empereur élu du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est un ordre extrêmement important, destiné à organiser une croisade contre les Turcs, qui est le grand projet politique oriental de Sigismond. Et dans cet ordre, il y a une composition internationale, et parmi ces princes orientaux, il y a donc aussi Vlad Dracul, qui à cette époque, à partir des années 30, est accueilli à la cour de Sigismond.
Ce sont des Draculéens, cette dynastie, des Vlad, parce qu'ils ont appartenu dès le début à l'ordre du dragon. Il n'y a pas de croisade sans ordre de chevalerie, comme les Templiers, l'ordre de Malte, après l'ordre teutonique, etc. Et donc, cet ordre du dragon est la marque encore, ou l'héritage d'une chevalerie et d'une noblesse combattante qui, lorsque elle a encore l'ambition ou le rêve d'une croisade ou d'une conquête contre les païens, eh bien, s'organise aussi symboliquement, se reconnaît avec un blason, des couleurs, etc., à travers des ordres de chevalerie. Et donc, par un renversement un peu stupéfiant, aujourd'hui, Dracula est un mot qui fait peur, évidemment, ou en tout cas qui désigne plutôt le mal, le diable, et le surnom de Vlad l'Empaleur va quand même un peu en ce sens-là, alors que, étymologiquement, Dracula renvoie à cet ordre du dragon, qui est un des grands ordres, comme on en trouve un petit peu partout, et qui est plutôt, sur le papier en tout cas, vertueux et non pas démoniaque.
Nous avons connaissance d'un document qui fait référence à son père. Dans ce document, il n'y a pas de date, rien. Mais il est très probable qu'il date des années 1440. Vlad II, le père, Dracul, est surnommé Dracula. Et l'auteur de cette lettre joue avec le sens du mot « drac ». Il dit que ce nom reflète les actes et le comportement du voyvode Vlad II. L'auteur retrace simplement l'étymologie de ce nom, Dracula.
Vlad își ia numele tatălui.
Vlad prend le nom de son père. Au XVe siècle, les gens portent plusieurs noms. Un nom de baptême, un nom de famille, un sobriquet, un nom posthume. Et encore, ce n'est qu'une petite liste. Vlad, c'est son nom princier. C'est donc ainsi qu'il se nomme dans les documents officiels. On peut faire un parallèle avec les papes, qui choisissent eux-mêmes leur nom. Il en va de même ici. On choisit un nom pour son règne. Et lorsque c'est un nom déjà utilisé par le passé, il y a forcément une raison derrière. Dans le cas de Vlad l'Empaleur, il trouvait sûrement important de rappeler à ses sujets qu'il était le fils de Vlad Dracul, le dragon. Tout d'abord parce que cela faisait un moment que Vlad Dracul n'était plus sur le trône. Et à ce moment-là, plusieurs noms se faisaient concurrence. Il y avait les Dan et il y avait les Vlad. Et puis le nom Radu est entré plus tard dans l'équation. Dracul signifie le diable. Dracula, c'était le nom que les opposants de son père lui donnaient, précisément pour ne pas le nommer Vlad, et donc pour nier sa légitimité princière. Et il est fort possible que l'origine du nom se trouve là. Mais pour les habitants de la Valachie du XVe siècle, la signification de ce nom est très claire. Par exemple, dans une lettre que nous avons, un boyard note la similitude entre le nom de Dracula et l'expression qui signifie « va au diable ». C'est un jeu de mots qui ne laisse aucun doute. Et ceux qui refusent de le nommer Vlad et qui l'appellent Dracula ou l'empaleur, d'une certaine manière, lui refusent donc sa qualité de prince. Donc je crois que de tous les noms qu'il a portés, le seul qu'il souhaitait qu'on lui reconnaisse était celui de Vlad.
Vlad Dracul, le père de l'empaleur, est du côté le plus chrétien de la chrétienté, de cet ordre du dragon que fonde l'empereur Sigismond. Mais les Draculeshti, par leur nature, sont funambules. Ils doivent être prêts à tout, à toutes les alliances, à toutes les trahisons. Parmi ces alliés de circonstance, il y en a un qui mérite d'être cité. C'est Jean Hunyadi, le puissant gouverneur de Hongrie et de Transylvanie. Sa relation avec Vlad Dracul est entravé par le puissant sultan au sud. Celui-ci exige du père de l'empaleur un tribut dès sa montée sur le trône et des fils en otage, en signe de bonne foi. Vlad Dracul change alors de camp. Il ouvre le passage aux Ottomans et ensemble, ils dévastent la Transylvanie. Pour Hunyadi et pour les Allemands de Hongrie, c'est un choc. Pour eux, Vlad Tsepech est le fils de ce diable.
Les devins, les gens inspirés, les diseurs d'oracles, les voyants, prophétisaient et chantaient les temps à venir. Leur frayeur tenait autant aux événements inexplicables d'alors, qu'ils considéraient comme des signes divins, des tremblements de terre inquiétants et bizarres, et dans le ciel, du tonnerre et des éclairs déchirants, une foudre effrayante, une lueur visible, des souffles violents, des cataractes et averses, et encore des apparitions d'astres inconnus dans une course errante avant de disparaître de nouveau, d'autres au contraire restant immobiles et émettant longtemps de la fumée. La divinité faisait voir d'autres faits prodigieux et inaccoutumés qui annonçait l'avenir et laissait entendre un bouleversement radical des choses. Des icônes, des statues et des effigies des bienheureux suaient dans les temples. Des hommes et des femmes entraient en transe à l'improviste, à tout moment, sans annoncer rien de bon. Les devins conjecturaient bien des horreurs. On fredonnait de vieux proverbes et on consultait les oracles.
En 1444-45, Jean Hunyadi, qui avait été nommé entre-temps gouverneur de la Transylvanie et surtout capitaine défenseur de la frontière méridionale, il avait décidé de partir en campagne, une grande campagne, et il est allé à Varna. À Varna, les Turcs sont arrivés alors que Jean Hunyadi comptait sur le fait que beaucoup de soldats turcs se trouvaient en Asie mineure et qu'ils n'avaient pas assez de barques pour traverser les détroits. Donc ils se retrouvaient devant une armée turque importante. Et il avait bien sûr obligé Vlad Dracul de lui donner aussi un corps d'armée. Mais Vlad Dracul avait envoyé déjà ses deux fils, Vlad et Radu, le cadet et le plus jeune, comme otage chez les Turcs. Les Roumains se battent très bien. C'était en général des archers à cheval, très forts. C'était les archers qui tiraient comme les Parthes, en courant à cheval et se retournant et tirant la flèche contre le poursuivant. Ils étaient conduits par le frère aîné de Radu et de Vlad, qui s'appelait Mircea, comme le grand-père. Et pendant le combat, le sultan lui transmet que « Si tu continues de te battre contre moi, je vais tuer tes frères qui sont otages. »
Donc Vlad Dracul, il est dans cette position d'essayer de ménager le sultan. En même temps, Il a ses obligations envers le royaume, et au moment où l'expédition se met en marche, l'expédition donc de Varna, de la croisade de Varna en 1444, il est obligé de suivre. En fait, c'est une situation totalement impossible, parce que dans son cas, voilà, il faut bien mesurer. Quand ça signifie également, en quelque sorte, de sacrifier ses propres fils, qui sont en otage à la cour du sultan. Rien, finalement, de cette situation, rien de bon ne peut véritablement sortir, parce qu'il est donc traître auprès des Ottomans. Les sources occidentales le voient comme un prince qui s'est aussi dérobé au combat, hein, à plusieurs reprises. Ces sources occidentales accusent, lors des grands épisodes de croix, justement, les Valaques, d'être de s'être dérobés au combat, d'avoir fui, d'être rentrés chez eux. Donc, en fait, il est dans cette situation totalement ambiguë, et son destin, finalement, tragique, c'est qu'il a dû se réconcilier avec le sultan ottoman.
Vladak, apprenant que ses fils étaient quand même vivants, il avait fait un nouveau traité de paix avec le sultan, vu qu'il n'y avait pas de traité entre la Hongrie et l'Empire ottoman, les Turcs se sentaient libres d'attaquer et la Valachie, et la Transylvanie, et la Hongrie, toutes les provinces. Et donc, lui ayant fait sa paix, Jean Hunyadi n'a pas été d'accord. Et donc, dans une campagne éclair, il a vaincu Vlad Dracul, l'a décapité à Trgoviste, la capitale. Et là, les bourgeois de cette ville capitale, horrible, horrible histoire, ont tué le fils aîné, ce garçonnet, Mircea, qui avait maintenant dans les 16-17 ans, de façon absolument épouvantable. Ils l'ont enterré vivant.
Donc à ce moment, Vlad et Radu, qui se trouvent à Andrinople, perdent leur statut officiel de représentants du prince de Valachie et se transforment en prisonniers politiques. Pour les mettre à l'abri, les deux sont envoyés en Asie mineure, près de Bursa, où ils vont en fait être en captivité. Ce qui, pour des enfants qui sont très jeunes, alors Radu était arrivé vers 5 ans à la cour ottomane, donc il devait avoir une dizaine d'années à ce moment. Ils étaient des adolescents, ça a dû être un véritable traumatisme, puisque leur traitement, même si on n'a pas beaucoup de détails sur son déroulement, leur traitement a dû être assez dur, assez difficile. Et cela a sans doute marqué le caractère des deux princes. On évoque Vlad et Radu, mais en même temps, le despote de Serbie, George Brankovic, avait lui aussi été obligé d'envoyer ses deux fils otages à Andrinople. Et donc, au moment de la croisade de Varna, tous les quatre fils se trouvaient dans le même statut. Et on sait par exemple que contre les fils de Brankovic, Murad II a appliqué une peine tout à fait formidable, qui était celle de l'aveuglement. Alors Vlad, en l'occurrence, et Radu ne l'ont pas subi, on peut se demander pourquoi. Alors cela pourrait s'expliquer par une forme d'adaptation que Vlad et Radu développent. On ne connaît pas exactement, mais en tout cas, ils ont échappé au sort terrible qu'avaient frappé en même temps les fils de Brankovic. Mais on peut se poser la question de l'influence, par exemple, des punitions ottomanes que Vlad a pu voir en temps réel et même subi pendant la captivité en Asie mineure. Et dans quelle mesure les punitions qu'il applique une fois devenu prince ne sont tout simplement pas une transposition des pratiques ottomanes.
Ce qui est probable, c'est que, eh bien, il s'est rapproché effectivement de certains membres de la cour. Il faut souligner en particulier que le futur sultan, Mehmet II, était également un prince relativement jeune. Hein. Il a une vingtaine d'années en 1453 lorsqu'il devient le maître de Constantinople. Donc, il n'y a pas une voilà, il a un âge comparable, enfin pas très éloigné de celui de Vlad. Donc, on peut penser que c'est que Vlad et Mehmet se connaissaient personnellement. Ils avaient à peu près le même âge. Peut-être ont-ils été dans une certaine mesure compagnons de jeu, hein, dans cette société.
Mehmed II, c'est quelqu'un sur qui on a beaucoup de sources, mais qui reste un personnage finalement assez mystérieux.
Guillaume Saint-Guilain.
C'est quelqu'un qui n'était pas forcément destiné à régner au départ, qui n'est devenu sultan que parce que son frère aîné a été éliminé, et qui a eu des débuts plutôt difficiles. Donc Mehmed apparaissait comme un sultan jeune, peut-être inconstant, qui avait peut-être de difficultés à imposer son autorité aux forces militaires, mais aussi au milieu religieux. C'était une figure qui, au fond, au début de son règne, effrayait beaucoup moins que son père. Donc il a besoin d'asseoir sa légitimité, et évidemment, s'emparer de Constantinople, ce qui était le projet de ses prédécesseurs ottomans, mais avant eux déjà, des grands califes de l'âge d'or de l'Empire arabe, évidemment, ça serait un triomphe qui lui donnerait un prestige considérable dans le monde musulman. La prise de Constantinople est annoncée dans des hadiths attribués au prophète Muhammad, et il y a tout un imaginaire apocalyptique qui est associé à Constantinople et à sa chute.
C'était le matin. On était encore entre chiens et loups, et certains des Romains, devant l'assaut des Turcs, s'étaient enfuis les premiers pour atteindre leur maison et prévenir leurs femmes et leurs enfants. Comme ils traversaient donc le quartier du Tauros et passaient la colonne de la Croix, les voyant maculés de sang, les femmes leur demandèrent « Que s'est-il donc passé ?» Et quand elles entendirent ces paroles détestables, « L'ennemi a franchi les murs de la ville. » Ils massacrent les Romains. Tout d'abord, elles n'y crurent pas et ne firent qu'insulter davantage et outrager celui qu'elles croyaient être un messager de mauvais augure. Mais derrière le premier, en arrivait un autre, puis un autre, tous souillés de sang. Et l'on reconnut désormais que le calice de la colère du Seigneur était proche des lèvres. Alors donc, tous, femmes et hommes, moines et moniales, de courir à la grande église. Hommes et femmes portant leurs enfants dans leurs bras, abandonnant leur maison à qui voulait y entrer. Et l'on put voir cette rue toute pleine d'une foule serrée.
L'armée de Mehmed II, en 1453... assiège la capitale byzantine en avril, qui tombe le 29 mai de l'année, donc après 8 semaines de siège. L'armée ottomane, qui était constituée de Turcs, mais aussi des vassaux chrétiens, forcés de participer au siège, se trouvait, pour notre grande surprise, aussi un contingent de l'armée de Valachie, qui est nommée Dacie dans ce texte précisément. C'est un renvoi clair aux Roumains. Cela implique donc que, dans le contexte de ses obligations vers l'Empire ottoman, Vladislav II de la famille des Dănești, qui avait été appuyé et installé sur le trône par Jean Hunyadi, avait été obligé d'envoyer un soutien militaire durant le siège de Constantinople. Et cela nous explique la rupture qui se produit dès l'année suivante, en 1454, entre Vladislav II et Jean Hunyadi, qui, du coup, change ses pions et accueille à sa cour et nomme comme prince candidat pour la Valachie notre Vlad l'Empaleur.
Après la chute de Constantinople, dans les principautés qui restent, notamment donc la Valachie, la question de l'acceptation de la domination ottomane ou de son refus devient la question fondamentale. Avant même 1453, les querelles dynastiques entre les deux branches de la famille bassarabe qui gouverne la Valachie étaient déjà quand même déterminées par cette question de l'alliance ottomane ou de son rejet. De fait, la branche à laquelle appartient Vlad Tepeș était plutôt la branche pro-ottomane en réalité. Mais les options qui s'offrent aux souverains chrétiens qui restent, sont beaucoup moins nombreuses. En gros, il reste soit l'alliance avec les Ottomans, soit l'alliance avec la seule grande puissance chrétienne qui demeure dans les Balkans, c'est-à-dire le royaume de Hongrie. Ça conduit ces souverains à des orientations plus radicales que dans la période précédente où finalement on pouvait plus facilement changer de bord ou ne pas prendre parti d'une manière trop claire. C'est là le dilemme de Vlad Tepeș.
Trebuie să ne gândim că Ioan de Hunedoara pătrunde în țara românească.
Radu Carciumaru.
On croit savoir que Jean Hunyadi est entré en Valachie et qu'avec l'aide des bourgeois de Târgoviște et des nobles, il a tué le frère et le père de Vlad. Et pourtant, quand Vlad l'Empaleur se rend compte qu'il n'a plus le soutien de l'Empire ottoman, il se tourne malgré tout vers Hunyadi, l'homme qui a assassiné son père. Celui-ci fournit alors à Vlad Tepeș une petite armée pour conquérir le pays. Et le 22 août 1456, après une bataille, le prince régnant Vladislav II est tué quelque part près de l'actuelle ville de Ploiești.
En juin 1456, deux mois avant la montée de Vlad sur le trône, la comète de Raleigh fait son apparition, au moment même où les Turcs, Mahomet II cette fois-ci, c'est le sultan, assiégeaient Belgrade. Elle est visible dans le ciel et visible dans toute l'Europe. Et donc, tout le monde dit, ça annonce des massacres, des guerres, des catastrophes, etc. Elle impressionne terriblement les gens parce qu'il paraît que la queue était rouge sang.
A fost un phénomène visible.
La comète était un phénomène très visible. Et comme tous les phénomènes de ce genre, elle était perçue à l'époque comme un message divin. Et le fait que la montée sur le trône de Vlad ait lieu au moment précis du passage de la comète Halley, cela a pu être interprété comme un signe divin.
On dispose de nombreuses représentations artistiques de la comète de Halley. Mais savoir comment Vlad Tepeș l'a vu et l'a interprété, c'est impossible à dire. En revanche, on sait que l'une des monnaies frappées par Vlad porte justement l'image de la comète de Halley. Mais comment interpréter ce signe surnaturel? C'est peut-être une allusion apocalyptique. Parce que Vlad Tepeș vit quelques années avant l'an 7000. Il faut savoir que la chancellerie de Valachie utilise alors la chronologie byzantine. Et cette chronologie, qui débute par la création du monde, est daté selon un calcul biblique qui prévoit l'Apocalypse pour l'année 7000. Nous savons donc qu'il y a une attente apocalyptique, au moins dans certains cercles monastiques. Mais nous ne savons pas si Vlad l'Empaleur s'est approprié ce phénomène. Dans l'une de ses premières lettres aux habitants de Brașov en 1456, il décrit son règne à venir comme un règne qui sera interrompu. Cela nous indique qu'il s'attend à des temps troubles.
Cet homme avait, à ce moment-là, 25 ans. Il avait toute la légitimité. Il descendait à la lignée directe des princes de Valachie. Il n'avait pas de concurrent. Il avait, en plus, une expérience importante. Il connaissait tous ses voisins, tous les pays voisins. La Transylvanie, où il avait été dans son enfance, et puis l'Empire ottoman, où il avait été otage pendant plus de 4 ans, de 1444 à 1448. Il connaissait donc tous les voisins de la Valachie, les mœurs, le style de gouvernement, les problèmes, les rapports de force. À sa montée sur le trône, il entre et il se présente donc comme prince. Il est tout de suite reconnu par les boyards. Et il y a une méthode considérée infaillible pour détecter les véritables fils de prince. Il y a des signes sur le corps. disons, dans le cas de Varashi, il y avait un soleil et une lune. On sait comment ça fonctionnait. Le prince venait et il était reconnu par le petit groupe de grands boyards et par l'armée qui se trouvait dans la capitale. Tous ces gens-là, un certain jour, qui était le jour du couronnement, venaient lui prêter serment de fidélité. Sauf que notre ami Dracula avait rompu avec la tradition. Il n'était pas venu vêtu à l'occidentale, mais il portait le caftan turc. Il avait vu que dans l'Empire ottoman, pour les sultans ottomans, tous leurs sujets étaient leurs esclaves. Il y avait une égalité parfaite entre les individus face au sultan. Il n'y avait pas de conseiller obligé. C'était le sultan qui les choisissait. Il n'y avait pas de discussion. Donc Vlad adopte ce système.
La pensée médiévale est dominée par Aristote. Et selon Aristote, il y a trois types de bons régimes auxquels correspondent trois types de mauvais régimes. Tyrannie et monarchie, aristocratie et oligarchie, démocratie et anarchie. Et pour Aristote, les trois sont cycliques. C'est la raison pour laquelle dans la pensée politique occidentale, on se demande comment empêcher la monarchie de glisser vers la tyrannie. Vlad Tepeș, lui, est la quintessence du prince négatif, du tyran.
Vlad Tepeș est...
Je ne pense pas qu'il soit une incarnation du diable, mais plutôt une image inversée de ce que doit être un bon prince.
Pour la première fois dans l'histoire de la Roumanie, Vlad introduit une garde rapprochée qui l'accompagne partout. Et cela indique, si vous voulez, la peur qu'il a des autres boyards, les nobles, la crainte d'être tué comme son père ou son frère. Je crois que la situation est difficile pour Vlad Tepeș parce que la plupart des boyards sont alors du côté de Vladislav II, l'ancien voïvode. On le voit dans les changements que l'empaleur apporte au Conseil, le principal organe législatif du pays, et qui est composé de grands boyards.
Compus évident din mari boieri. Explicația este una destul de simplă.
L'explication est assez simple. Les grands nobles voulaient la paix, mais celle-ci ne pouvait être menée que par un dirigeant entretenant de bonnes relations avec l'Empire ottoman. Vlad Tepeș ne partageait manifestement pas cet avis, et les grands boyards en avaient conscience. Il venait évidemment en tant que protégé du royaume de Hongrie, et donc en tant que représentant de la lutte contre les Turcs.
Lorsqu'il monte sur le trône, donc Vlad accepte de gouverner donc, en tenant compte des opinions des boyards, surtout de ceux qui avaient été ses complices lorsqu'il avait pris le trône. On voit ça dans la composition des conseils princiers, c'est-à-dire du gouvernement. Au départ, la part des anciens nobles est importante. Et puis, jusqu'en 1458, quand se produit la rupture, c'est là, en 1458, qu'il décide de rompre les relations avec les Turcs ottomans. Et après cette date, ça change complètement de paradigme. À partir de ce moment-là, Vlad réalise le premier grand massacre de boyards. Les sources contemporaines donnent 500 morts. Il avait vu que les boyards n'avaient pas du tout envie de s'engager, surtout les vieux, dans une guerre contre les Turcs. Un contemporain, un grec de Constantinople, Laonique Kalkokondyle, écrit que Vlad a opéré chez lui une révolution. Cette révolution, il l'explique. Donc, dès qu'il voyait que des grands seigneurs penchaient plutôt vers les Turcs, je rappelle, c'était leur droit, c'était leur privilège d'élire les princes, de les débarquer s'ils ne voulaient plus d'eux, et surtout de de mener la politique interne et externe. Donc en voyant ça, Vlad tuait tous ces boyards et les remplaçait par des hommes nouveaux.
Nu am din păcate nume. Însă ele pot fi.
Nous n'avons malheureusement pas de nom. Il est possible de les identifier, mais avec un certain degré d'incertitude. On remarque, par exemple, que dès les deux premières années du règne, des boyards disparaissent du conseil royal. Très peu de ceux qui disparaissent après un an ou deux du conseil réapparaissent dans les sources. En fait, il n'y en a que deux dont on perd la trace dans les premières années de règne de Vlad l'Empaleur qui refont surface, mais plus tard, à l'époque de son successeur. Les autres ne réapparaissent jamais. On suppose donc que Vlad Tepeș les a tués. Sûrement dans des contextes différents et pour différentes raisons. Mais forcément, avec ses mesures contre la noblesse, il s'est fait autant de partisans que d'ennemis. On constate qu'environ 7 ou 8 boyards lui sont restés fidèles, c'est-à-dire qu'ils étaient présents au conseil tout au long du règne de Vlad Tepeș. Cela en dit long sur le peu de soutien interne dont l'Empaleur a bénéficié.
Il confisquait les biens de ses victimes pour les donner à ses nouveaux favoris. Cela entrait en conflit avec une des coutumes les plus solides qui était à la base du pacte entre les princes et les boyards. C'était que les domaines fonciers étaient inaliénables du clan. Et donc, Vlad, au lieu de rendre ses domaines au clan, des grands boyards qu'il assassinait, le donnait à des hommes nouveaux. Et on les voit, ces hommes nouveaux, dans son conseil, c'est-à-dire dans son gouvernement, jusqu'à 90%. Des hommes nouveaux, c'est-à-dire des personnes dont on n'a jamais entendu parler, on ne sait pas d'où ils sortaient, et dont on nous dit, les témoignages contemporains, qu'ils venaient de partout, il y avait même des Turcs parmi eux, et que c'était le gouvernement.
Celui qui était capable d'inventer les pires méfaits devenait son conseiller intime. Il gouvernait l'État entouré des pires gredins qu'on puisse rencontrer sur Terre. Il les appréciait hautement d'où qu'ils venaient. De Hongrie ou de Serbie, de chez les Turcs ou de Tartarie, ils étaient tous acceptés. Les mœurs à la cour étaient très sauvages. Lui et ceux qui l'entouraient étaient devenus très coûteux. Son gouvernement était épouvantable. La méchanceté était à la mode. Ses serviteurs et ses courtisans étaient pareillement infidèles et menteurs et hypocrites en tout. De sorte que nul ne pouvait jamais avoir confiance en qui que ce fût. Ils n'avaient rien en commun parce qu'ils avaient des mœurs différentes et parlaient toutes sortes de langues, ce ramassis de gens de tous les pays qui étaient venus chez lui. C'est pourquoi on ne peut pas parler de lui seul à cause de leur manque d'union. Ses vices et sa délectation n'auraient pas tant duré sans leur présence près de lui. Il n'y aurait pas eu tant de désunions et de conflits comme ceux que je viens de chanter. Il commença à faire beaucoup de méfaits contre Dieu, l'honneur et la justice.
Après s'être remonté sur le trône, Vlad l'Empaleur a été informé que le membre du conseil de Targoviste avait fait enterrer son frère aux abords de la ville.
He went there, he found the remains of his brother, and he observed that his brother.
Il s'est rendu sur place et il a trouvé les restes de son frère. Son visage était tourné vers le bas. Cela veut dire qu'il a été jeté dans une fosse, et enterré sans la cérémonie que l'on doit normalement donner à un prince.
Il a fait ouvrir la tombe et il a trouvé que le malheureux était la face contre terre. Il avait essayé de sortir de la tombe parce qu'un mort, un type enterré vivant, s'il ne réussit pas avec les mains, se met sur le ventre et essaie avec le dos en poussant avec les mains. Bon, il n'avait pas réussi, il était mort. Et là, il les a punis de façon exemplaire. Ça s'est resté même dans la chronique officielle du pays. Il a empalé tous les vieux.
And he simply exploded.
Il a tout simplement explosé.
Who took his Vlad the Impaler? So
Vlad l'Empaleur a vu les membres du conseil responsables de la mort de son frère.
He simply exploded.
Et il a explosé. Il a perdu le contrôle et la raison.
Act rationally, and of course,
et les a punis en conséquence.
La même année, il fut installé seigneur de la Valachie. Il fit tuer sur le champ le voïvode Vladislav, qui avait été seigneur de ce pays. Peu après, il réduisit en cendres des villages et des châteaux en Siebenbürgen, à savoir Klosterholz, Neudorf et Holzenmengen. Il incendia Beckendorf. Les hommes, les femmes et les enfants, grands et petits qu'il ne brûla pas sur place, furent emmenés avec lui, enchaînés en Valachie, et il les fit tous empaler. Il fit prisonnier le jeune Dan et fit lire le service des morts par ses prêtres. Lorsqu'il fut accompli, il fit creuser une tombe selon la coutume chrétienne et le décapita près de son tombeau.
Prince Dracula, une histoire vraie. Deuxième épisode, entre deux mondes, le fils du diable. Avec les chercheurs Matei Kazaku, Dan-Johan Mureshan, Benoît Joudiou, Pierre Monet, Marianne Coman, Guillaume Saint-Guilain, Radu Karchumaru et Adrien Georg, membre du Corpus Draculianum. Remerciements à Alexandrou Simon. Texte et chronique, lu par Sarah Chaumette. Doublage, Andrea Schiffer, Anna Uribe et Olivier Martineau. Prise de son, Lucien Lefebvre, Yvan Charby, Hervé Dubreuil et Virginie Lorda. Mixage, Valentin Azanzelinski. Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Villoz. Coordination, Christine Bernard. Collaboration, Anna Fulpin. Une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Anne Pérez-Ronchini.